إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Nous allons évoquer inshallah tabarak wa ta'ala les événements qui ont suivi la bataille de Uhud. Les associates envisagèrent de revenir une autre fois pour en finir définitivement avec les musulmans. Lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam apprit leur intention, il appela les gens à les poursuivre parmi les croyants. Il leur dit « La yakhruju ma'ana illa man shahida al-qital » que ne sorte avec nous que celui qui a assisté au combat, c'est-à-dire le combat de Uhud. Les musulmans lui obéirent malgré les blessures graves, malgré la fatigue. Ils dirent « Sami'na wa ata'na » nous avons entendu et nous avons obéi. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorisa Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu à partir avec eux, bien qu'il n'ait pas participé à la bataille de Uhud, car son père, Abdullah ibn Jubair, l'avait laissé pour s'occuper de ses sœurs. Je vous rappelle que le père de Jabir, Abdullah ibn Jubair, était celui qui était en charge des archers sur le mont. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait donné des consignes et il devait les transmettre à tous ceux qui étaient avec lui, ses 50 archers, de rester sur la montagne et de ne surtout pas descendre, quelle que soit la situation qui se présentait à eux. Or, beaucoup des archers descendirent, désobéirent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela a eu un incident sur la tournure des événements par la suite. Et donc son fils, pour cette occasion, a reçu l'approbation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de pouvoir participer à cette expédition, à savoir rattraper les Quraïchites qui avaient l'intention de retourner à Médine pour combattre les musulmans et en finir avec eux. Ils marchèrent donc jusqu'à atteindre un endroit qui s'appelle Hamra al-Asad, Hamra al-Asad, qui est situé environ à 4 km au sud de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissa pour la gérance de Médine Abdullah ibn Ummi Maktoum radiallahu anhu. Ce que comprend de cette version de Abi Ishaq, c'est que tous les combattants de Uhud, parmi ceux qui étaient encore vivants, ont répondu à l'appel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et donc sont partis avec lui pour rejoindre Abu Sofyan et les combattants associatres. Seulement la version de l'imam al-Bukhari qu'il rapporte sur le numéro 4077, indique que 70 hommes répondirent à l'appel du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, comment concilier ces deux narrations? Ce qui apparaît, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux narrations. Car ces 70 hommes, comme rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, partirent en premier. Puis, ils furent rejoints par tous les autres par la suite. Dans le même temps, passa par Abu Sofyan une troupe de cavaliers de la tribu des Abd al-Qais. Alors Abu Sofyan leur demanda « Où allez-vous comme ça ?» Ils répondirent « Nous allons à Médine. » Il leur demanda « Et pourquoi ?» Ils dirent « Pour acheter des provisions. » Alors Abu Sofyan leur dit « Voulez-vous communiquer de ma part un message à Mohammed ? Et en échange, je chargerai ceci de raisins secs à Okad quand vous vous y rendrez. » Okad, c'est un marché connu, qui se trouve entre Taif et la Mecque. C'est d'ailleurs une halte importante pour tous ceux qui viennent accomplir le pèlerinage. Ils répondirent volontiers. Il leur dit alors, « Lorsque vous arriverez chez lui, dites-lui que nous avons décidé de marcher contre lui et ses compagnons afin d'anéantir le reste de ses hommes. » Par la suite, cette troupe de cavaliers passa par l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur la route de Médine et ils arrivèrent à Hamra al-Assad. Il lui communiqua ce qu'Abu Sofyan avait dit. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Hasbunallah wa ni'mal wakil » Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Abu Sofyan était donc déterminé à revenir au combat et exterminer les musulmans. Seulement le messager sallallahu alayhi wa sallam était désormais au courant de cela. L'imam Ibn Ishaq rahimahullah tabaraka wa ta'ala rapporte cela en détail. Il dit, selon Abdullah ibn Abi Bakr, Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuza'i passe près du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque, Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuza'i était encore associate, mais il se convertit à l'islam par la suite. Seulement, lui et toute sa tribu, la tribu des Khuza'a, qui était composée de musulmans et d'associates, était digne de confiance aux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela même à l'époque de la Mecque. Ils étaient loyaux envers lui et ne lui cachaient rien. À ce moment-là, donc, Ma'bad était encore associâtre. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Oh Mohammed, nous sommes vraiment attristés par ce qui t'est arrivé concernant tes compagnons. » C'est-à-dire tous les morts et les martyrs, les 70 martyrs de Uhud, parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous aurions voulu que tu sois épargné de subir cela. Ma'bad ensuite continua son chemin jusqu'à rencontrer Abu Sofyan, Ibn Harb, et ceux qui étaient avec lui à Ayr Rawha. Ces derniers avaient décidé de revenir attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ils disaient, c'est-à-dire les Quraishites, nous avons tué leur chef et nous avons tué leur noble. Allons-nous repartir sans anéantir complètement ceux qui restent? Revenons pour en finir avec eux. Voilà ce qu'ils se disaient entre eux, afin de se motiver à revenir en arrière et d'en finir une bonne fois pour toutes avec les musulmans. Quand Abu Sofyan vit Ma'bad arriver, il lui demanda « Quelle nouvelle nous apportes-tu, ô Ma'bad ?» Ma'bad répondit « Mohammed est sorti avec ses compagnons à votre poursuite, avec une armée comme je n'en ai jamais vue. Ils sont remplis de colère contre vous. Même ceux qui n'étaient pas présents lors de la bataille se sont joints à lui. Et ils regrettent leur absence. Leur colère est telle que je n'en ai jamais vu de pareil. » Abu Sofyan dit « Malheur à toi, que dis-tu ?» Ma'bad répondit « Par Allah, je pense que vous ne partirez pas avant de voir le toupet de leurs chevaux poindre à l'horizon. » C'est-à-dire qu'ils sont très proches de vous. Abu Sofyan dit « Par Allah, nous avions décidé de revenir pour exterminer le reste. » Ma'bad dit « Je te déconseille fortement de faire cela. Ce que j'ai vu m'a poussé à composer des vers de poèmes. » Abu Sofyan demanda « Et quels sont ces vers de poèmes ?» Alors, Ma'bad cita ces vers de poèmes « Kadat tuhaddu min al-aswati rahilati, idh salat al-ardu bil-jurdi al-ababili, tardi bi-usdin kiramin la tanabilatin » عند اللقاء ولا ميل معازيلي فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغمططت البطحاء بالجيل إني نذير لأهل البسل ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقول من جيش أحمد لا وخش قنابله وَلَيْسَ يُوسَفُ مَا أَنْذَرْتُ بِالْقِيلِ. Ce qui signifie « Ma monture faillit tomber sous le vacarme de leur armée lorsque la terre débordait de nuées de chevaux dans leur course sûre, rapide, portant de nobles lions et non des faibles combats, jamais sans armes ni armure. J'avançais rapidement et la terre semblait vaciller sous mes pas dès lors qu'ils apparurent guidés par un chef plein d'assurance pure. Je dis malheur à Ibn Harb, c'est-à-dire Abu Sofyan. Malheur à Ibn Harb si vous les rencontrez, lorsque la plaine se soulève sous leur vaste envergure. Je suis celui qui avertit les gens de Mecca celle-là même exposée au soleil, pour chaque homme de raison qui écoute sans imposture, de l'armée d'Ahmed, sallallahu alayhi wa sallam, non d'une armée de faibles, dont nul mot ne peut décrire la grandeur ni la mesure. Ce message effraya Abou Sofiane, comme il effraya ceux qui étaient avec lui, et cela les dissuada de revenir attaquer. Voilà comment Marbad a pu annihiler les intentions et les velléités d'Abou Sofiane de revenir en arrière pour combattre les musulmans. Allah tabarak wa ta'ala révéla à propos de cette expédition le verset suivant. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Sourate numéro 3, verset 172. Dans le sens des versets. Ceux qui, quoique atteints de blessures, répondirent à l'appel d'Allah et du messager. Il y aura une énorme récompense pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien et pratiqué la piété. Ibn Ishaq, rahimallah tabarak wa ta'ala, rapporte que sur le chemin du retour de Hamra el-Assad, les musulmans capturèrent Muawiya ibn al-Mughira, qui est le grand-père de Abd al-Malik ibn Marwan du côté de sa mère, ainsi que Abu Azza al-Jumahi, qui, comme je vous le rappelle, avait été déjà fait prisonnier à Badr, puis libéré par le messager sallallahu alayhi wa sallam gracieusement, sans rançon. Seulement Abu Azza, qui était un poète, avait réitéré, n'avait pas respecté sa promesse de ne plus attaquer et invectiver les musulmans. Mais il avait pris part au combat à Uhud. Lorsqu'il fut capturé, il dit « Oh messager d'Allah, libère-moi ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Par Allah, tu ne frotteras plus tes joues à la Mecque en disant « J'ai trompé Mohammed deux fois ». Puis le prophète ordonna à Zubair, radiallahu anhu, son exécution. Cette narration a été rapportée par Ibn Hisham avec des interruptions dans la chaîne de transmission. Seulement les savants de la Sira le rapportent de cette manière et il fait presque autorité, dans le sens où c'est un récit qui est connu et qui a une certaine notoriété, même si la chaîne de transmission n'est pas fiable au regard des règles de la science du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi « Le croyant ne se fait pas mordre deux fois au même endroit. » Ibn Ishaq ajoute « Cette expédition eut lieu le 8 du mois de Shawwal, 32 mois après l'Hijr. » 32 mois après l'Hijr. Comme rapporté par Ibn Hisham. Ibn Ishaq la situe le 10 de Shawwal. Aussi, dans le même temps, donc ce sont des événements qui sont plus ou moins parallèles, dans le sens où ils ont eu lieu en même temps, à des intervalles de temps assez courts. Ibn Hisham, rahimallah tabarak wa ta'ala, a dit que Abu Ubaida m'a rapporté qu'Abu Sofiane, lorsqu'il partit après la bataille de Uhud, avait voulu revenir à Médine pour anéantir le reste des partisans de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors Safwan ibn Umayya ibn Khalaf leur dit « Ne faites pas cela, car les gens, et il parle ici des musulmans, sont furieux. Nous craignons qu'ils mènent la guerre d'une autre manière que celle qu'ils avaient adoptée. Retournez donc à Mecca. » Abu Sofiane, devant cette recommandation de Safwan, comme devant la recommandation de Marbad, décida de retourner à la Mecque sans retourner au combat. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sut qu'ils avaient décidé de revenir à la charge, avait dit, étant encore à Al-Hamra al-Assad, « Par celui qui tient mon âme entre ses mains, il y a des pierres signées pour eux, qui, si elles leur sont lancées le matin, ils disparaîtront comme une journée passée. » C'est-à-dire que le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, nous parle d'une chose qui, si elle était arrivée, aurait été un châtiment très douloureux pour les Quraïchites, un châtiment divin. Car le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, s'il revient à la charge, c'est-à-dire s'il revient à Médine pour combattre une nouvelle fois, Allah tabarak wa ta'ala a envoyé des pierres marquées. Ces pierres-là les atteindront et ils périront et on les oubliera comme on l'oubliera la journée passée. Voilà le sens des paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la leçon à tirer de cette expédition de Hamra al-Assad? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sortie vers Hamra al-Assad montrent la perfection de son caractère, sallallahu alayhi wa sallam, et de son leadership. Courage, endurance, patience, refus de céder à la défaite et sagesse politique. Elle montre aussi l'obéissance, la patience et la foi des compagnons. Radiallahu anhum. Allah révéla à leur sujet: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Sourate numéro 3, versets 172 à 174. Dans le sens des versets: ceux qui, quoique atteints de blessures, répondirent à l'appel d'Allah et du messager, il y aura une énorme récompense pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien et pratiqué la piété. Certes, ceux auxquels l'on disait: les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela accrut leur foi et ils dirent: Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha et ils suivirent ce qui satisfait Allah, et Allah est détenteur d'une grâce immense. Voilà ce qui a été rapporté de cette expédition de Hamra al-Assad. Dans la suite ou dans la foulée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va envoyer une expédition militaire à laquelle il ne participera pas. C'est la Sariya de Abi Salama radiallahu anhu. Quel est le contexte de ce détachement, de cette expédition? Lorsque les tribus bédouines autour de Médine apprirent ce qui s'était passé à Uhud et que cela était une relative défaite pour les musulmans, ces mêmes tribus envisagèrent d'attaquer les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprit que les Bani Assad, sous le commandement de Tulayhatul Assadi et son frère Salama, se préparaient à attaquer Médine, espérant profiter des nourritures de Médine, mais aussi espérant profiter de la faiblesse apparente des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'empressa d'envoyer un détachement de 150 hommes parmi les émigrés et les ansars sous le commandement de Abi Salama ibn Abdul Asad radiallahu anhu. Ces derniers surprirent l'ennemi près d'un point d'eau appelé Qatan. Les ennemis s'enfuirent à leur vue, laissant leurs troupeaux derrière eux que les musulmans ramenèrent à Médine. Cela eut lieu au début du mois de Muharram, c'est-à-dire le premier mois de l'année hégirienne, 35 mois après l'hégire. Là aussi, ce récit n'a pas été rapporté par des chaînes de transmission fiables, mais on le rapporte comme un récit qui est connu auprès des gens. Dernière chose qui s'est passée durant cette période post-Uhud, c'est que le messager sallallahu alayhi wa sallam va envoyer un homme pour éliminer un autre homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va envoyer Abdullah ibn Unais pour éliminer Khalid ibn Sufyan al-Hudhali. Cet homme-là, Khalid ibn Sufyan al-Hudhali, des Bani Hudhayl, tentait de rassembler des hommes dans la région de Urana, qui est juxtaposée à Arafat, proche de Mecca. On a dit aussi que le rassemblement de ces hommes-là était plutôt à Nakhla, c'est-à-dire plus vers Taif. L'objectif de ce rassemblement sous la tutelle de cet homme, Khalid ibn Sufyan al-Hudhali, était d'attaquer Médine et de tuer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, le messager sallallahu alayhi wa sallam décida d'envoyer un seul homme, Abdullah ibn Unais, radiallahu anhu. Avant de partir, Abdullah demanda au messager sallallahu alayhi wa sallam de lui décrire cet homme, Khalid ibn Sufyan. Le messager sallallahu alayhi wa sallam le décrivit et Abdullah quitta Médine seul en direction de Urana, proche de Mecca. Il se rendit auprès de lui, gagna sa confiance en utilisant plein de ruses et de subterfuges. Et lorsqu'il gagna sa confiance, il le tua. Par la suite, Abdullah ibn Unais retourna auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui en le voyant dit: le visage est radieux. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait compris que Abdullah ibn Unais avait réussi sa mission que lui avait chargé d'accomplir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis le messager sallallahu alayhi wa sallam le fit entrer chez lui et lui donna un bâton en disant « Ce bâton sera un signe entre toi et moi le jour du jugement. » Un bâton, c'est comme une canne. Abdullah conserva ce bâton jusqu'à sa mort et il fut enterré avec lui. Ce récit a été rapporté par Ibn Ishaq dans ses Marazi avec une chaîne de transmission interrompue. Mais l'imam al-Bayhaqi le rapporte avec une chaîne de transmission ininterrompue. Et il la déclare bonne, comme Ibn Hajar a déclaré ce récit aussi Hassan. Bon. On comprend de tout cela, barakallahu fikoum, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille de Uhud, n'a pas ménagé ses efforts pour combattre les ennemis ou pour repousser d'éventuelles attaques des ennemis de l'islam parmi les tribus arabes avoisinantes. Cela afin de ne pas montrer ou de ne pas faire croire à ces mêmes ennemis que les musulmans étaient en position de faiblesse ou qu'ils avaient été affaiblis par la bataille de Uhud. Cela devait au contraire montrer que les musulmans étaient toujours fermes, décidés à défendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et défendre l'islam, coûte que coûte, quitte à en perdre leur vie. Nous verrons la semaine prochaine, inshallah tabarak wa ta'ala, une expédition importante, aux implications importantes qui eut lieu juste après les événements que nous avons cités aujourd'hui, inshallah tabarak wa ta'ala. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه كما نسأله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته